Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme d'Urbanité d'octobre, un éditorial sur les tiers-lieux, la belle rencontre avec Benoît Augereau, qui va nous parler de la paille, et le sujet qui fâche avec le géographe Guy Burgel, à propos de la territorialisation de la pandémie de Covid-19.
Urbanité. L'édito.
Vous avez dit tiers-lieux. Coworking, Fab Lab, jardin partagé, habitat autogéré, atelier populaire, boutique associative, etc. Partout se multiplient en France, aussi bien en ville que dans les campagnes, des endroits où l'on peut entreprendre avec d'autres, des activités marchandes ou non. De quoi s'agit-il ? De tiers-lieux. L'expression figure sous la plume du sociologue américain Ray Oldenburg, né en 1932, dans son ouvrage de 1989, The Great Good Place, les bonnes grosses places, hein, les bons endroits si vous voulez, qui est publié et qui tout de suite va avoir un énorme succès. Pour lui, l'Américain des suburbs ne connaît que son logement, le premier lieu, et son bureau, l'usine ou la boutique, le second lieu. Il lui manque donc, pour sa socialisation ordinaire, un troisième lieu où il se mêle à d'autres personnes et constitue avec elles une sorte de communauté momentanée, incomplète, qui esquisse une relation civique, crée un lien social, une complicité, appelée ou non à perdurer. Ces lieux sont des cafés, des salons de coiffure, des bibliothèques et des librairies, des jardins partagés, des ateliers de réparation, des ressourceries, des friches d'artistes, des maisons de services au public, etc. Bref, des lieux où, en plus de leur destination habituelle, se déroulent des rencontres spontanées, imprévues et surtout agréables. Déjà au XVIIIe siècle, des gens se retrouvaient dans des cafés, des clubs, des salons, des sociétés savantes, des académies régionales pour y refaire le monde et élaborer les idéaux révolutionnaires qu'ils contribuaient à diffuser. Ils appartenaient à la même société, en étaient membres et versaient une cotisation. Dorénavant, l'isolement provoqué par le tout automobile incite les gens à se fréquenter pour parler mais aussi pour faire ensemble, inventer, innover, sans l'obligation de créer une quelconque association avec son règlement et sa hiérarchie. Pour Ray Oldenburg, c'est la répartition territoriale de la population américaine qui conduit celle-ci à constituer des tiers-lieux. Véritable terrain neutre, ouvert à tous, avec des bénévoles accueillants qui assurent la bonne ambiance et acceptent chacun sans rien lui demander. Le tiers-lieu n'est aucunement sophistiqué. Il doit être un véritable chez-soi pour celle ou celui qui s'y rend. Il fonctionne à la bonne franquette. N'exclut personne, sa gratuité est la garantie de son hospitalité. C'est ce qu'il décrit en 2000 dans sa célébration du tiers-lieu. C'est aussi ce que lui emprunte Lisa Petit dans son article sur les villes conviviales, dont la traduction française, que je vous recommande, se trouve dans un numéro de la revue Topophile. Elle s'inspire d'Ivan Illich, qui nous indique qu'il entend par convivialité le contraire de la productivité industrielle, les interrelations continues, autonomes et créatives entre les personnes et entre celles-ci et leur environnement, et cela en opposition aux réponses conditionnées qui leur sont imposées par d'autres ou par un environnement totalement artificialisé. Mais trouve-t-on dans les tiers-lieux de quoi réaliser la pure sociabilité que réclame Georg Simmel au début du XXe siècle, celle qui réunit selon lui des gens sans autre raison que la joie, la vivacité et l'apaisement en engageant leur personnalité au-delà de tout objectif ou fonction. Un rapport des Nations Unies en 2017 dénombrait dans le monde 113 000 espaces de coworking. Le mot coworking est inventé à San Francisco en 2005 et en annonçait plus de 25 000 de plus en 2020. Ce sont des lieux hybrides, généralement bardés de technologies nouvelles. Le numérique facilite certainement la cohabitation de télétravailleurs de domaines différents, avec une majorité d'auto-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément un revenu assuré et garanti. Le tiers-lieu n'est pas nécessairement rentable. Il permet la mutualisation des charges, loyers, secrétariat, équipement informatique, documentation, restauration et l'entraide technique. Mais son institutionnalisation va à l'encontre de ses principes initiaux. En effet, l'espace de co-travail impôt son économie qui peut, de fait, exclure les plus fragiles. C'est dire si derrière l'appellation générique de tiers-lieu se trouve tout un éventail de situations et d'intentions particulièrement contrastées. Le rapport publié par France Tiers-lieu le 27 août 2021 fait état de 1800 tiers-lieux en France en 2018, 2500 en 2021 et vraisemblablement 3500 à la fin 2022. La majorité des tiers-lieux, 62%, adoptent un statut associatif, 26% sont en SAS ou en SARL. Une moitié de ces tiers-lieux vit de subventions et l'autre de ses fonds propres. En 2019, 21% d'entre eux étaient bénéficiaires et 49% atteignaient, grosso modo, l'équilibre. Le chiffre d'affaires général était de 248 millions d'euros pour 6 300 emplois directs et la visite de 2,2 millions de personnes. Pour certains, le tiers-lieu est donc un facilitateur. Pour d'autres, il relève de la flex-exploitation. Ainsi n'est-il pas encore stabilisé, ou plus exactement, sa pérennité exprima son renoncement à une informalité originelle. En effet, un tiers-lieu n'est pas appelé à s'institutionnaliser et à collecter d'année en année les subventions des régions, départements, villes ou fondations. Il ne doit pas non plus se substituer au service public qui se désengagerait de telle ou telle mission. Un tiers-lieu pointe son nez sans prévenir, tout comme il disparaît, sans rechigner. Fier d'avoir existé en permettant à des personnes isolées de manifester leurs compétences, envies, rêves et de les échanger avec d'autres, sachant que l'enrichissement des uns participe à celui des autres. Un tiers-lieu doit être avant tout, me semble-t-il, un tiers-mieux.
Urbanité, la belle rencontre.
La belle rencontre, aujourd'hui, Benoît Rougelot. Merci d'être avec nous. Tu es architecte, militant du BTP, Bois, Terre, Paille, coprésident du réseau français de la construction en paille, RFCP, et tu as créé en 2005 l'atelier Land Fabrique avec un paysagiste, un autre architecte, parce que pour vous, tout projet participe au paysage duquel il dépend. Paille vient du latin palea, fétu, balle de blé, puis tige entière de la céréale dépouillée de son grain. La couche de paille devient vite synonyme de pauvreté, d'où les expressions « coucher sur la paille » ou « mettre sur la paille ». L'on parle alors de paillard pour désigner celui qui dort ainsi. On connaît la paillasse, le paillasson, l'empailleur, le rempailleur et aussi le pailleur. Mais comment faut-il nommer celui qui construit avec de la paille, Benoît?
Tout d'abord, merci pour l'invitation. Dans le milieu des pailleux, on a l'habitude de s'appeler les pailleux, qui pourrait être un terme dévalorisant, mais nous, on ne le considère pas, comme on appelle les terreux, les boiseux, les chanvreux. Voilà, ça nous.
D'accord.
On aime bien se définir comme ça.
Et peut-on. Alors, justement, paille, chanvre, bois, etc. Terre, est-ce que c'est tout ça qu'on appelle les matériaux biosourcés?
Oui, c'est la grande famille des biosourcés et des géosourcés. La terre crue rentre plutôt dans les géosourcés, mais ouais, c'est une grande famille des matériaux naturels.
Et alors comment on les trouve et en fait, il y a un truc moi, qui me semble évident, c'est que ce n'est pas nouveau. Alors pourquoi ça redémarrerait maintenant? Pourquoi il y a un ras-le-bol du tout béton?
Oui, il y a sûrement y a une raréfaction de la matière qui fait que du sable, il y en a de moins en moins. De l'énergie, on commence à comprendre qu'elle est rare et chère et qu'elle est produite du carbone. Donc on essaye de retrouver des matériaux un peu plus naturels. Donc voilà, c'est effectivement un renouveau. Mais bon, on construit avec de la terre et de la fibre depuis la nuit des temps. La botte de paille, on construit depuis l'époque où on a inventé la botteleuse, en 1880. Donc c'est pas si ancien.
C'est bien ancien, non, oui.
Ça correspond à la mécanisation de la récolte du blé et la mise en botte. Après, voilà, en France, il y a quelqu'un qui s'est essayé en 1920, dans l'après-guerre, de reconstruire en botte de paille. Mais bon, tout ça a été un petit peu effacé par la Seconde Guerre mondiale et l'industrialisation après la Deuxième Guerre mondiale.
Donc c'est directement lié aussi à l'agriculture.
Ah bah complètement oui, c'est bah oui là, ça correspond au début, enfin les premiers à utiliser la botte de paille sont les agriculteurs du Nebraska assez pauvres qui avaient très peu de forêts et qui ont empilé ces bottes et qui ont fait leur maison, qui ont auto-construit leur maison.
Donc d'une certaine façon c'est un art d'accommoder les restes d'une agriculture céréalière.
Oui, mais oui, c'est bah, pendant longtemps on l'a considéré comme étant un déchet. On a, ouais. Sémantiquement, on a un petit peu travaillé le sujet en parlant de coproduits de l'agriculture, ce qui était un peu plus valorisant. Mais oui, grosso modo,
Quels sont les usages de la paille? Toi, en tant qu'architecte aujourd'hui, est-ce que c'est principalement l'isolation?
Oui, c'est de l'isolation. Après, si on en revient justement aux sources du Nebraska, c'est aussi un matériau de construction porteur. La première année, c'est qu'à Rosny-sous-Bois, donc pas très loin d'ici, ils font même des écoles ou des centres de loisirs avec un étage en bottes de paille porteuses. C'est-à-dire que c'est les bottes de paille qui elles-mêmes portent le plancher et portent la charpente.
Et alors cette isolation, elle est quand même merveilleuse parce que c'est une isolation à la fois d'été et d'hiver.
Complètement, oui. Surtout couplée avec des enduits à la terre.
Oui.
Ça offre un confort, évidemment, en hiver, parce que c'est assez épais, il y a un R de 7, donc ça isole bien, comme un thermos ou une grosse doudoune. Et en été, l'inertie thermique de la terre, qui va souvent de pair avec la paille, fait qu'il y a de l'inertie thermique, et ça conserve la chaleur, et ça l'empêche de rentrer aussi dans l'intérieur du bâtiment. Donc en gros, la chaleur commence à rentrer dans un bâtiment quand il commence à faire nuit et que la température redescend.
Alors cette isolation en paille, elle s'appuie, j'allais dire, sur une structure en bois.
Grosso modo, oui. Enfin, dans la majorité des cas, il y a une structure en bois, puisque aujourd'hui, les règles professionnelles qui permettent la garantie décennale des bâtiments comme à tout autre matériau, c'est accolé à une ossature bois et la paille comme isolant. Après, comme je disais, la paille porteuse existe, d'autres techniques existent, l'isolation thermique par l'extérieur. Donc voilà, il y a un développement d'autres techniques qui ne sont pas complètement réglementées, mais c'est une affaire de quelques temps. Parce que nous-mêmes, dans les pionniers, on construisait avant 2011, puisque les règles professionnelles de la construction paille, c'est 2011, mais on construisait depuis longtemps avant. Et même le renouveau de la paille, c'est le Larzac dans les années 70.
Ah oui, d'accord. Et alors, pour bien comprendre, il y a la paille, je vois très bien ce que c'est, et il y a l'enduit.
Oui.
Alors l'enduit, comment on le pose? C'est toujours de la terre?
C'est pas toujours de la terre, mais effectivement, dans les règles professionnelles, c'est accepté comme isolant et support d'enduit. C'est-à-dire qu'on peut enduire directement de la terre, du plâtre, de la chaux, sur la botte de paille. C'est un support d'enduit. On projette directement dessus, à la main, à la machine.
Donc ça adoucit évidemment le toucher de la paille qui n'est pas forcément agréable, toujours.
Oui, ça gratte un peu, la paille.
Ça peut blesser un petit peu.
Oui.
Bon. Et alors ces enduits, ils ont des qualités environnementales. Il y en a qui sont préférables que d'autres au niveau de leur émission de CO2 ou de leur capacité à ne pas bénéficier d'une source d'énergie pour être manipulée.
Ah bah, idéalement, prendre des... Enfin, si on construit un bâtiment, après on peut remettre en cause, est-ce qu'il faut construire encore ? Après on peut rénover avec de la paille aussi, mais si on a un peu d'extraction à faire sur site, ou il y a un chantier pas loin où on a la possibilité d'avoir de la terre crue, c'est-à-dire la terre, et si elle est bonne en fait à faire des enduits, parce que toute terre n'est pas bonne à n'importe quel usage, mais si elle est bonne, idéalement on prend la terre du site, donc c'est vraiment une ressource naturelle et gratuite, parce qu'elle est déjà là, on peut tartiner les murs en paille pour les protéger du feu avec cet enduit à la terre, et si c'est en extérieur, de faire une finition au plâtre ou à la chaux.
Alors, au niveau des... Parce que quand on redécouvre un savoir-faire et qu'on améliore, qu'on modernise, etc., on doit buter quand même sur un savoir-faire artisanal qui a disparu. Ou là, ça n'a pas été le cas ?
Oui, on peut... Je n'ai pas les chiffres en tête, mais oui, on a moins en moins d'artisans en général en France. Après, le fait qu'on a fait ces règles professionnelles en 2011, donc ça fait quand même 10 ans, et à coller à ça, il y a des formations ProPaille qui permettent de garantir les professionnels de façon décennale, et où on réapprend en fait aux gens à refaire des enduits, à faire une charpente en bois, à mettre des bottes de paille entre ces montants en bois. Et donc, d'une certaine façon, en fait, on a remis au goût du jour, c'est un peu le cas, hein, de la construction paille et tous les savoirs qui vont avec, de l'artisanat, dont les enduits.
Alors, pour un particulier qui veut construire sa maison en paille, est-ce que économiquement, écologiquement, j'ai compris que c'était un plus, est-ce que économiquement, c'est aussi finalement le même coût qu'une maison en parpaing ou...
Le gros, enfin, un des autres avantages de la paille, c'est que ça va effectivement du chantier d'autoconstruction où quelqu'un, une famille fait tout eux-mêmes. En allant voir l'agriculteur, le voisin, pour chercher des bottes de paille qui vont lui coûter 2 euros la botte, donc à peu près 5 euros le mètre carré de mur. Oui. Donc pour le coup, c'est économique. S'il le fait lui-même, hein. Après il met en place tout ça, il fait de la charpente de bois. Enfin, il se réapproprie en fait l'acte de construire, ce qui est aussi intéressant. Et de l'autre côté de la branche, il y a les chantiers publics gros, où c'est une entreprise du BTP, version ancien, enfin ancien BTP, qui prend en main le chantier et qui met des caissons. Qui peuvent être préfabriqués en atelier, donc moins de pénibilité et plus de rapidité d'exécution, moins d'aléas climatiques sur site, et qui coûtent, on va dire, le prix d'un chantier courant performant.
Oui, donc c'est pas du tout beaucoup plus cher, loin de là même.
Après, aujourd'hui, la réglementation thermique, elle date de 2012.
Ouais, donc,
on est en révision pour avoir une 2020 qui va être appliquée en 2022. Bon, il faut toujours deux ans de retard, qui va favoriser la construction biosourcée et le souci du carbone et l'énergie dans la construction. Donc, on va aller sur des bâtiments qui sont performants, bien isolés, dont le coût carbone est maîtrisé. Donc ça va forcément aller vers des bâtiments biosourcés, géosourcés. Et du coup, en fait, le standard d'aujourd'hui qui est on peut construire pas cher parce qu'on a des performances environnementales et thermiques qui ont déjà 9 ans, ça sera plus possible. Donc du coup, la construction de matériaux avec des matériaux naturels qui sont performants en énergie et en carbone deviendra au même prix.
Oui, c'est ça. Alors, dans plusieurs entretiens, et j'imagine que tu dis la même chose à tes étudiants de l'école d'architecture de la Villette, tu dis qu'il faut payer le travail et pas le produit.
Oui. Oui. Bon, après, c'est des études sur, effectivement, quand on regarde... On va considérer que c'est des coûts équivalents.
Oui.
Je l'ai déjà dit, la botte de paille, elle coûte 2 euros, alors que la laine de verre ou le polystyrène vaut beaucoup plus cher. Alors qu'en production, quand on regarde le coût de production, c'est un salarié qui contrôle une usine qui entartine des mètres cubes. Enfin, pour l'entreprise qui produit, ça coûte pas grand chose. Donc, à mon avis, il y a une grosse plus-value financière dans ces matériaux, et on le voit aussi dans les artisans du BTP, où on arrive avec des matériaux qui sont prêts à poser, on va dire. C'est de la main d'œuvre bon marché, donc payé bon marché. Ouais. Comparé à quelqu'un qui a une qualification plus importante, parce que son geste compte plus. En fait, il faut qu'il mette correctement la botte, les enduits, il faut qu'il les fasse bien, parce que sinon, on a des désordres. Et ben, il est payé l'équivalent de sa sueur véritable, on va dire.
Alors, on va parler un peu quand même de tes réalisations. De quel veux-tu parler ? Peut-être de la réhabilitation de la rue de la Convention ?
Oui, c'est le...
Paris Habitat ?
C'est ça, oui. C'était une rénovation d'un pignon, oui. Dans Paris, sur cet étage.
Ah oui.
En isolation, en bottes de paille, donc directement posée sur
extérieur,
ce mur moellon extérieur,
oui, tout à fait. Extérieur, d'accord.
Qui, à mon sens, en fait, rénovation est l'enjeu de demain, parce que des passoires thermiques, on en a plein en France, mais c'est où les gens payent plus cher en chauffage, voire en climatisation, que en loyer. Enfin, donc ça, c'est vraiment une aberration. Donc, si on peut ne pas construire, eh ben, il faut rénover. Et aujourd'hui, on peut rénover avec les biosourcés. Donc ça coûte, sur cette opération pour Paris Habitat, ça coûte, le chargé d'opération estime que ça lui a coûté aussi cher qu'une isolation avec un bardage de qualité. Et auquel cas, nous, on a un enduit à la chaux et sable qui prend différemment la lumière qu'un polystyrène avec de la peinture plastique dessus, ce qui est le courant de la rénovation aujourd'hui.
Bon. Et alors, prenons un autre exemple, Brang.
Oui.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Comment
le raconter à des gens qui nous écoutent et qui ne le voient pas ?
Alors, Brang, c'est une école en Isère, donc dans un village qui est majoritairement construit encore en pisé. Donc, un village un peu protégé aussi. Donc, le cahier des charges, c'était de faire une école avec, une petite école communale avec classes mélangées. Donc, il y a trois classes. Donc il va de la maternelle jusqu'au CM2, donc c'est des niveaux démélangés, et donc sur un site en pente où il y a une cour en bas et une cour en haut, et donc on a fait un bâtiment de trois étages. Il fallait aussi refaire la médiathèque du village et la ludothèque, puisque c'est un peu, et ça devient aussi le cybercafé, voir le tiers-lieu, comme tu le disais bien. Et donc, du coup, l'intitulé de l'appel d'offres s'appelait « Espace novateur en milieu rural ». Donc déjà, ça sonne bien. Et en plus, dans un territoire où il y a du pisé, on s'est dit « chouette, on va pouvoir faire de la paille, c'est normal. Aujourd'hui, il faut isoler correctement les bâtiments. » Donc de la paille avec un enduit terre à l'intérieur pour les propriétés que j'ai énoncées. Un bardage bois extérieur et un mur sud totalement en pisé. Non isolé. Parce qu'il y a une thèse qui est sortie qui dit qu'avec les changements de phase qui se passent dans le pisé, avec l'humidité de l'air ambiant en hiver et en été, il y a des gains de calories dans le sens positif en hiver et dans le sens négatif en été. Donc c'est un régulateur d'hygroscopie aussi. Et c'est un matériau qui est aussi esthétiquement fantastique. En dehors Et pour le coup, en fait, le pisé, il coûte relativement cher, on va dire. Mais pour ceux qui ont déjà vu du pisé, chaque strate qu'on voit, qui sont des strates de terre, qui est une recomposition des strates de la terre originelle, c'est aussi, on voit le travail, la sueur de l'artisan qui a mis en œuvre, puisque c'est un véritable savoir-faire qui se retranscrit en fait de façon esthétique et... Donc pour moi, c'est aussi un matériau formidable qui prend énormément bien la lumière comme un enduit terre. Enfin, on voit la matérialité de la matière.
Mais Benoît, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pourrais conclure avec un slogan, en le détournant un petit peu. Quand le BTP va, tout va plutôt mieux. Mais c'est le BTP bois terre paille, évidemment.
En effet, tout à fait. Oui.
Merci Benoît.
Merci.
Urbanité. Le sujet qui fâche.
Ah, tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Boulégard ! La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Écalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain. La cité a été bâtie grâce à ses millions de mains. Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument, je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Les gens venus de partout qu'on appelle l'immigrant, nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants, d'adorables chérubins avec de jolies mamans. Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant. Et voilà qu'un beau matin, le bambin fête ses 3 ans. Il va nous parler enfin, toute la famille attend. Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps. Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim avec l'accent. Et pourtant ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Tous les samedis au stade Vélodrome, tous les supporters s'écrient comme un seul homme. Alléluia, on est tous avec toi. Alléluia, les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça, je crois bien que personne ne peut le contester. Le jeu ouvert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Dès qu'on ne peut s'y retrouver, monsieur le maire, c'est à vous que je viens parler. C'est d'un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus reculer, alors ouvrons un grand débat. Parlons d'identité, montrons à tous ces pépons que nous savons ce que c'est. La Provence a des valeurs, j'ai dit l'hospitalité. Oublions le doute et la peur, c'est de l'avant qu'il faut aller. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux Écalades.
Là, on aura reconnu « Ma ville est malade » par le groupe Massilia Sound System. C'est à cause du titre, évidemment, cher Guy Burgel, que j'ai choisi cette chanson. Tu es normalien, agrégé de géographie, auteur d'une thèse d'État sur Athènes, professeur de géographie urbaine à l'Université de Nanterre, où tu fondes avec ton épouse Galia la revue « Villes en parallèle » en 1978, dont le numéro 4950, paru en 2020, s'intitule « Matériaux pour la ville de demain », qui préfigure un peu l'ouvrage que je montre ici. J'espère que la caméra le verra bien. Voilà, on le filmera mieux tout à l'heure. Hein. Qui est « Ville et Covid, un mariage de raison », paru aux éditions Cartala en 2021. 220 pages, 20 euros. Il y a 29 collaborateurs, mais on va pas rentrer dans les collaboratrices, on va pas rentrer dans ce détail-là. Il y a quelques chapitres dédiés à l'étranger, la Tunisie, l'Iran, le Singapour ou le Mexique. Mais ma première question, là c'est la question aux géographes, peut-on cartographier une géographie d'une épidémie ?
Bon, Thierry, bonjour d'abord et merci de ton invitation. Alors, avant de te répondre à la question, je voudrais dire pourquoi est né ce projet. À la fois le numéro de Ville en parallèle auquel tu as fait allusion, le livre que tu viens de montrer, ben, c'est ce sentiment qui n'a pas changé depuis plus d'un an maintenant, qu'au fond, autant les sciences biologiques, et on pense évidemment aux vaccins, avaient fait des progrès tout à fait considérables dans cette période de pandémie, autant les sciences sociales que nous représentons, toi comme moi, patinaient un peu et au fond avaient été maltraitées ou s'étaient maltraitées. Donc c'était ce sentiment qu'au fond, on voulait leur faire dire ce qu'elles ne devaient pas dire ou ce qu'elles ne pouvaient pas dire et on n'en tirait pas tout ce qu'on pouvait en tirer. Donc, je te répondrai après sur la cartographie, mais il y avait, et là, il y avait ces trois slogans un petit peu que je porte comme un étendard dans ces publications en disant, théoriser n'est pas conceptualiser. J'en donnerai un exemple tout à l'heure pour la densité. On peut théoriser sur la densité, mais quand on essaye de conceptualiser les différentes échelles, les différentes significations. Là, j'avais publié une tribune dans Le Monde, tu t'en souviens, au mois d'août dernier pour le montrer, ou pour essayer de le montrer. Bon, ben, on est quand même sur une autre dimension. De la même façon, je pense qu'on a beaucoup quantifié, chacun se souvient des démonstrations un peu macabres et un peu lugubres du professeur Salomon pendant le premier confinement, où on énumérait les morts, les gens qui étaient en réanimation, enfin c'était épouvantable, et c'est pas mesuré. Un exemple quand même, parce qu'il faut être concret, pendant très longtemps, on a pu comparer, sans coup férir si j'ose dire, le nombre absolu de décès aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ou en Italie, ou en France. Évidemment, il fallait les rapporter, on a corrigé assez vite le tir, il fallait les rapporter à la population absolue de ces pays, autrement ça n'a aucune signification. Un autre exemple qui montre bien comment la quantification n'a rien à voir avec la mesure, c'est quand on rapportait très souvent le nombre de décès, mais le nombre de décès au lieu où est survenu le décès. Bien évidemment, les villes étaient surreprésentées parce qu'il y avait beaucoup de décédés dans les hôpitaux urbains. Bon, voilà, et la troisième slogan, et après je répondrai volontiers à ta question par l'exemple de l'étude qu'on a menée sur le Grand Paris. Moi je suis très frappé dans ce défi ou dans ce déni des sciences sociales par le fait qu'au fond, la prédiction, je suis pas un prédicteur, l'emportait sur le projet possible. Et avec ton interlocuteur précédent, on a bien vu le projet, tout à fait intéressant, même s'il était technique et pas politique, comme je le préconise. Mais voilà. Donc, alors, la cartographie. Alors là, tu me permets, je reviens, mais ça va être très, très bref. Je reviens à l'étude qu'on a menée. Et je dis toujours, c'est du bricolage rigoureux. Moi, j'accepte et j'assume la formulation d'être un bricoleur rigoureux. On a essayé de voir, de mesurer sur le premier semestre 2020, un premier semestre un peu réduit de 15 jours, puisque c'était d'un 1er janvier à un 15 juin, quelle était la surmortalité dans le Grand Paris. Alors, je rappelle à nos auditeurs, le Grand Paris, c'est les quatre départements de Paris et de la Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. C'est 7 millions d'habitants, c'est des situations extrêmement variées. C'est 150 unités, soit communales, soit arrondissements pour le Paris. Et donc, ça représente un bon échantillonnage. Moi, je n'ai pas... Je dis pas que c'est représentatif de la France, loin de là. Alors, on a cartographié tout ce qu'on pouvait cartographier. Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est parti d'une base de données qui était, je pèse mes mots, de 1 500 000 lignes. Je dis bien de 1 500 000 lignes, c'est-à-dire qu'il y avait finalement autant de lignes que de décès répertoriés en 2018-2019 et le premier semestre 2020 pour essayer de juger la surmortalité. Alors donc, je dis toujours, c'est un peu aller à la pêche avec un filet au papillon, parce que c'est compliqué. Mais enfin, ça c'est le bricolage. Alors la cartographie. Mais la cartographie, c'est là qu'on arrive à avoir des schémas plausibles, finalement, de ce qui s'est passé. C'est qu'on a, grosso modo, quand on cartographie la surmortalité au niveau de ces 150 unités que je rappelais, les communes pour les trois départements périphériques de la Petite Couronne et puis les 20 arrondissements parisiens, on a une surmortalité qui est à l'inverse de la mortalité générale. C'est-à-dire que là, quand on voit là, banalement où les gens meurent le plus, ben les gens meurent le plus, grosso modo, là où ils sont les plus vieux. C'est Monsieur de la Palice. Besoin de géographe et normalien pour le montrer, bon, ça semble assez logique. Bien, c'est peut-être logique, mais la surmortalité, finalement, au cours du premier semestre 2020, comparée aux deux semestres des années précédentes, 2018 et 2019, est à l'inverse de tout ça. C'est pas dans les zones les plus âgées où on a une surmortalité la plus importante. Alors, surmortalité, que par défaut, c'est là que j'assume aussi le bricolage, nous attribuons au Covid, évidemment, c'est plutôt dans les zones jeunes, de banlieue, que la surmortalité est importante. Bon. Et puis, la densité, je reviens à la densité, à la conception de la densité. Paris intramuros, le Paris des arrondissements, c'est à peu près, vraiment la louche, hein, c'est à peu près 20 000 habitants, ou 200, oui, au kilomètre carré, à l'hectare, et on a une densité qui est deux fois moindre en banlieue. Eh bien, c'est dans les zones les moins denses, finalement, de la périphérie parisienne, notamment la boucle de la Seine, les quartiers pauvres, pour aller vite, le 9-3, la Seine-Saint-Denis, la boucle nord, la boucle nord des Hauts-de-Seine, Gennevilliers à Nanterre, un peu le sud-est dans le Val-de-Marne, qu'on est mort le plus. Et alors là, du coup, qu'est-ce que nous permet, et j'en arrive, excuse-moi d'être un peu long, à répondre à ta question, qu'est-ce que nous permet de subodorer, si j'ose dire, la cartographie fine. C'est comme ce sont des personnes, et là aussi c'est une chose qu'on a découverte, bon, dans ces zones de banlieue, disons, défavorisées, ce n'est pas des personnes jeunes, c'est pas nous, on croyait, nous, que c'était c'était les premiers de corvée, ceux qu'on retrouvait sur la ligne 13, qui étaient obligés d'assumer la promiscuité du métro matin et soir, etc. Mais pas du tout. C'est des personnes aussi âgées. Autrement dit, pour résumer, c'est des personnes âgées, des quartiers pauvres et jeunes qui ont eu une surmortalité la plus grande. Alors donc, la densité, ce n'est pas la densité brute, ce n'est pas la densité des habitants au kilomètre carré, c'est la densité que l'on trouve à l'intérieur des logements. Et il est évident, là, dans la petite équipe, il y avait... excuse-moi de cette saga familiale, il y avait mon fils qui est professeur de pneumologie, donc c'était la garantie médicale, si j'ose dire, de toute l'opération. Bon, le schéma qu'on a élaboré, c'est que finalement, il y avait dans des appartements exigus des surmortalités de personnes âgées qui tenaient à la cohabitation intergénérationnelle dans ces appartements et dans ces logements exigus, et d'autre part, au fait que l'accès aux soins était quand même limité, mais ça, c'était structurel, et d'autre part, qu'on avait chez ces personnes âgées très souvent des comorbidités associées, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, etc. Autrement dit, on a un phénomène cumulatif. Et je disais, le Covid est une maladie de pauvres qui fait peur aux riches. Et ben c'est un peu ça, enfin de façon un peu caricaturale et outrée, mais c'est ce que permet la cartographie fine, tout en soulignant toujours que la cartographie n'est qu'une base hypothétique d'un schéma explicatif qui mériterait finalement, et ça on n'a pas pu le faire, d'être corroboré par une remontée de la chaîne à partir des dossiers médicaux pour bien s'assurer que c'est ça. Mais selon toute vraisemblance, c'est ça. Voilà ce que permet la cartographie, mais on peut lui faire dire beaucoup de choses.
Oui, c'est un peu comme les statistiques. On va élargir un peu la focale, Guy, si tu veux bien. Alors on s'en souvient, la pandémie, la zoonose, se déclare dans la ville chinoise de Wuhan et se répand pour la première fois en Europe, dans les régions urbaines de l'Italie, puis de l'Espagne et la France, etc. Est-ce que ça justifie à ce moment-là d'appliquer les mêmes mesures préventives qui ont été décidées par le gouvernement en France, comme les gestes barrières, le port du masque à un certain moment, le confinement, le couvre-feu même, et le vaccin, sur l'ensemble de tout le territoire?
Alors, tu reconnaîtras bien mon esprit un peu tordu ou contradictoire, je vais te répondre. Mais avant, d'abord, tu me permettras, tu es trop fin connaisseur des mots, c'est une zoonose qui est en même temps une anthropozoonose, parce que finalement, ça, c'est un peu ça qui a affecté, c'est pas le pangolin ou les chauves-souris de la région de Wuhan qui sont en cause, c'est quand même les conséquences sur les femmes et les hommes de la planète. Bon. Alors, la deuxième chose, c'est que chacun se souvient quand même qu'en France, avant de parler des grandes villes, on a parlé de Crépy-en-Valois, on a parlé de ce qui se passait. Il y avait des foyers dans des départements ruraux, dans l'Oise. Il y avait ce fameux foyer là de l'église évangélique de Mulhouse dans le Haut-Rhin, si mes souvenirs sont bons, mais qui avait débordé sur les Vosges. Quand on faisait les premières cartes, on se demandait pourquoi les Vosges, parce que c'était proche finalement, bien évidemment, de Mulhouse. Autrement dit, personnellement, j'aurais quelques scrupule à dire, c'est les grandes villes qui sont atteintes parce qu'il y a une mobilité internationale. C'est beaucoup plus complexe que ça, à mon avis. Et d'autre part, c'est les grandes villes et mes collègues qui faisaient, pendant qu'on faisait notre étude sur le Grand Paris, des études sur New York, montraient très bien que ce n'était pas Manhattan, finalement, qui était la plus atteinte. C'était le Bronx, c'était le Queens, c'est-à-dire les quartiers pauvres de New York. Autrement dit, il y a bien un rapport évident entre la grande ville parce qu'elle est source de mobilité, mais on a du mal à penser que finalement en Seine-Saint-Denis il y a une mobilité disons de CSP+ qui viennent de Wuhan et qui expliquerait que c'est en Seine-Saint-Denis que ça se passe plutôt que dans le 16e arrondissement ou à Neuilly. Donc moi je récuse un petit peu cela, c'est plus complexe. Alors pour répondre à ta question, j'y ai un peu réfléchi, mais je vais empiéter peut-être avec beaucoup de courage, voire d'intrépidité sur ton domaine de prédilection et ton domaine de compétence, la philosophie. Il y a une contradiction entre liberté et égalité. Si je privilégie finalement l'égalité, et je rappelle que c'est un dilemme, c'est pas une hypothèse d'école que je suis en train
pas
de poser.
Pas du tout, ça, et c'est toujours pas réglé.
Tu te souviens bien, au début ou à la fin du premier confinement, printemps 2020. Si je dis, au fond, on va discriminer les populations. Discriminer les populations, quelles sont les populations les plus atteintes? C'est les personnes âgées, il n'y a qu'à confiner les personnes âgées plutôt que de confiner les territoires. On voit très bien que là, on devient rapidement un peu… on fait une politique finalement inégalitaire selon les catégories d'âge, pourquoi pas les catégories même de gens après, on peut dire maintenant, ça ne serait pas les plus âgés, mais les non-vaccinés, les vaccinés, etc. Et là, au fond, je privilégie les personnes, mais je défavorise les territoires. Donc il y a une contradiction là entre liberté et égalité, et inversement, on voit très bien, mais c'est un peu un raisonnement circulaire. Tu évoquais l'article de mon ami et élève Alexandre Grondeau sur Singapour. Si je dis je vais vraiment suivre tous les cas contacts, là, on va pas interdire le territoire de Singapour. Simplement, on va dire au cas contact, confinez-vous chez vous, restez en quarantaine ou en quatorzaine. Est-ce que c'est pas une privation de liberté? Autrement dit, on a, et je crois que, je sais pas si je me fais bien comprendre, on a un arbitrage chaque fois politique finalement entre liberté et égalité. Et on navigue, et moi je ne jette pas la pierre du tout aux autorités politiques de ce pays, de la France, parce que je crois qu'on a arbitré de façon relativement équilibrée entre liberté et égalité, donc en faisant plutôt une politique territoriale qu'une politique d'individu. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Si, tout à fait. Non, mais du coup, je reviens sur tes propos d'ouverture. La zoonose, évidemment, c'est la destruction de l'habitat et du territoire d'animaux par les activités humaines qui vont conduire à cette forme de pandémie qu'on connaît. Donc là, on voit très très bien, et ça beaucoup de commentateurs l'ont dit, et même le grand public commence à le comprendre, il n'y aura pas de bonne santé des humains s'il n'y a pas une bonne santé de la Terre. Donc ça, je pense que c'est assez convaincant.
Tu as raison. Tu as parfaitement raison, excuse-moi de te couper. Tu as parfaitement raison, je me souviens, j'avais même échangé à l'époque avec le professeur Didier Sicard, grand spécialiste finalement des zoonoses asiatiques, sur ce qu'il avait étudié lui-même, je crois que c'était au Cambodge quand il était pasteur. Mais en même temps, on ne peut pas éliminer complètement, parce que nos amis chinois ne montrent pas beaucoup de bénévolence de ça, on ne peut pas éliminer complètement qu'un virus fou, si j'ose dire, se soit échappé des laboratoires de Wuhan. Donc, il y a à la fois certainement une origine naturelle, entre guillemets, écologique, pour être dans l'air du temps, et peut-être une origine humaine, je n'en sais rien, mais on peut éliminer aucune hypothèse. Mais c'est là que je reviens toujours déficience finalement, au déficit même des sciences sociales. On n'a pas beaucoup progressé depuis un an et demi, hein. On n'a pas beaucoup progressé ni sur l'origine du virus, ni sur la contagiosité du virus. Moi, je suis très frappé. Enfin, bon, je sais bien que l'ARN messager avait été précédé par des décennies, au moins deux décennies de recherches un peu silencieuses, hein, et qui brutalement ont émergé. Mais en même temps, nous sommes toujours un peu, il y a qu'à écouter ou lire à longueur de journée. Je disais encore hier dans le Monde, là, ce qui se passait en Seine-Saint-Denis pour la vaccination. On n'a pas beaucoup progressé pour savoir pourquoi les zones les plus vulnérables, et ça maintenant, enfin, bon, notre étude corroborée par d'autres études est un peu passée dans la vulgate, quoi. Bon, on sait très bien que c'est un territoire menacé. C'est un territoire menacé où, malgré les dotations en vaccins dès le premier semestre 2021, ben, on est toujours un peu en sous-vaccination dans les territoires les plus menacés. Mais pourquoi ? Alors, résistance des populations, complotisme avéré dans certaines couches. Mais on balbutie, alors que la recherche biologique, moi je suis émerveillé finalement des progrès, mon chien. Progressiste au sens étymologique du terme, j'ai émerveillé les progrès de la recherche des sciences de la vie, quoi.
Alors, je reviens parce que tu as cité le professeur Didier Sicard. Effectivement, c'est très important parce qu'il faisait remarquer que le gouvernement s'était entouré d'un conseil scientifique pour essayer d'apporter des réponses à cette pandémie et que ce conseil scientifique était exclusivement composé de médecins. Et lui disait, si ça vient par la chauve-souris, pourquoi n'y a-t-il pas d'agriculteurs, de chasseurs et de vétérinaires ? Et il avait absolument raison. C'est vrai que dans notre système à nous, on a presque perdu notre autonomie de patients, éventuellement de malades, éventuellement de convalescents. On abandonne tout ça à l'autorité médicale, c'est-à-dire aux grands professeurs. D'abord, j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup qui étaient des virologues. Je ne savais pas qu'on en avait autant en France. Il y en a toujours un nouveau qui parle à la radio. Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'on n'a pas pris, on n'a pas une démarche écologique, hein, ou environnementale, disons le plus simplement, de ce problème. Alors, j'ai deux dernières questions à te poser qui sont assez simples. La première concerne ta discipline, c'est-à-dire la géographie, d'un point de vue épistémologique. Quels sont les liens entre les géographes et la question de la santé ?
Bon, une incidente la saga familiale, dans le comité scientifique, il n'y avait pas plus de pneumologues. Voilà une maladie qui est éminemment, qui attaque le système respiratoire et qui vient du système respiratoire. Enfin bon, là, je vais pas faire la théorie des aérosols, il n'y a pas de pneumologues. Bon, les virologues étaient en effet très bien représentés. Enfin bon, voilà. Alors, la géographie de la santé, oui, c'est pratiqué depuis assez longtemps, mais finalement, c'est très souvent une géographie ou des maladies ou des déserts médicaux. Mais c'est pas une géographie de la santé.
C'est ça.
Voilà, tu vois, c'est ça. On cartographie.
Très souvent, les maladies tropicales, par exemple,
allusion à mon passé grec, si j'ose dire, la géographie étant inconnue, on m'assimile à un cartographe. Voilà, pour moi, pour les Grecs, moi je suis un cartographe, je suis pas un géographe. Quoi. Bon, alors c'est la cartographie des déserts médicaux et qui ne sont pas uniquement dans les déserts ruraux. Hein, je reviens à la Seine-Saint-Denis et un certain nombre de territoires de nos banlieues des grandes métropoles. On évoquait Marseille avec ta chanson introductive. Quoi. Bon, ce sont les déserts médicaux urbain. Bon. Et d'autre part...
Oui, dans le 9-3, c'est pareil. Hein.
Pardon ?
Dans le 9-3, c'est pareil, tu as des déserts médicaux urbains.
Oui, exactement. C'est pareil. Oui, absolument. Ouais. Bon. Et par ailleurs, n'oublie pas une chose, il y a une vieille tradition. Il y avait dans la géographie classique, finalement, celle de mon adolescence ou de ma formation, il y avait quelques territoires nobles, si j'ose dire, c'était la géographie tropicale.
Voilà,
donc,
c'est ça,
la géographie de la santé, c'était la géographie du paludisme.
Ah oui,
c'était,
oui.
Bon, quelqu'un comme Jean Drèche était très lié à Jean Bernard, rhumatologue, etc., parce que c'était ça. Mais finalement, on voit très bien le déficit quand on a une pandémie comme celle du Covid, finalement, pour une véritable géographie de la santé qui soit intégratrice en quelque sorte, qui puisse intégrer depuis le revenu, ce qu'on a fait dans notre cartographie, depuis le revenu disponible par habitant, le nombre de pièces par personne, enfin bon, etc., et d'autres, les comorbidités, et on ne s'en donne pas les moyens. Je reviens encore une fois à ce qu'on avait proposé, et moi ce que je regrette, que ni la PHP, les hôpitaux de Paris, donc, ni l'agence régionale de santé n'ont voulu prendre en compte qu'il fallait peut-être repartir de dossiers d'hospitalisation pour comprendre ce qui s'était passé. Tu vois. Autrement dit, nous, on est remonté de statistiques démographiques un peu larges, mais on aurait pu repartir pour assurer véritablement l'hypothèse. Bon, ben, la géographie de la santé, elle est largement balbutiante parce qu'elle a des fondements qui sont un petit peu anciens.
Oui. Non, mais de toute façon, ce n'était pas du tout une critique, hein, tu l'as bien compris, de la géographie, parce que j'observe la même chose pour les formations de l'architecture, du paysage ou de l'urbanisme. Les étudiants n'ont aucun cours sur la médecine et la santé publique. Et inversement, les étudiants en médecine n'ont jamais un enseignement sur l'urbanisation, sur les matériaux, cher Benoît, qui seraient plus sains les uns que les autres.
Ce sont des batailles que nous réglons en famille, puisque j'ai deux fils médecins, quoi. Ils sont, mais pas eux, dans leur formation d'une unité crasse, finalement, en démographie de la santé.
Oui, absolument. Tout à fait.
Et donc, ça, il y a une déficience totale, et ça ne va pas en s'améliorant.
Non, non. Et alors, juste la dernière question, Guy, qui est très simple, enfin, et en même temps, tu vas voir qu'elle est un peu coquine, c'est ton titre, parce que tu dis ville et Covid, donc là, c'est ville et Covid, c'est pas la campagne, c'est pas tous les territoires. Un mariage, donc c'est quand même une union, de raison au pluriel. Et de raison en deux mots, hein, je précise.
Oui, de raison. J'aurais pu dire, si j'avais été jusqu'au bout, j'aurais dit de déraison.
Voilà.
Parce que finalement, bon, c'est pour dire qu'on est en face de logique complexe. Quoi. On n'est pas dans le simplisme, si tu veux. Et tu avais aussi ce problème, et qu'on a vu avec ton interlocuteur précédent sur l'architecture de paille, là. Au fond, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'utopie, tout le monde dans son cottage en télétravail et circulant à vélo ou dans la ville du quart d'heure? Moi, je pense qu'on est quand même largement dans des prédictions dont personne ne sait si elles peuvent se réaliser. Inversement, moi, je crois, tu vois, au projet politique. C'est-à-dire que s'il y a une façon de sortir de ces raisons ou de cette déraison ou de ces déraisons, c'est en ayant un projet politique de la ville qui permette de concilier à la fois ce que veulent nos contemporains, en effet certainement pas du béton entassé dans des centres-villes trop denses, etc., mais des maisons de ville plus aérées avec des possibilités d'avoir des appartements duplex. Moi, je milite beaucoup pour la maison de ville. Il y a de l'imagination, c'est pas faire offense à ton interlocuteur précédent, mais il n'y a pas de l'imagination seulement dans la paille, si j'ose dire. On peut imaginer des architectures intérieures qui concilient finalement l'aménité urbaine, et en même temps, comme dit notre président, en même temps, finalement, le développement durable et des mobilités douces, et pas... Si tout le monde va dans les villes moyennes et au fin fond de la province, etc., je ne donne pas cher, des progrès en recherche médicale, des soins même, et pas cher non plus des économies d'énergie, parce que tout ça est extrêmement énergivore. Quoi. Donc, il y a de l'imagination. Moi, je crois au projet. Hein, tu vois.
Eh ben, écoute, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Guy.
Merci, Thierry.
Et à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.